Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, on s'entretient avec Vanessa Blais-Tremblay, professeure associée au département de musique de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Blais-Tremblay, ça va bien?
Ah oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui.
Ben, merci de nous recevoir dans cette journée bien spéciale, coordonnée par Noémie, oui. que voici. J'aimerais en fait vous entendre un peu là, sur une recherche en fait là, que vous avez fait, donc sur l'évolution des chansons évoquant des violences à caractère sexuel, qui est évidemment dans la thématique de cette journée nationale. Expliquez-nous un peu là, quelle a été la genèse de ce projet-là de votre côté.
Oui, de mon point de vue, à moi, ça part vraiment d'une lacune, en fait, je dirais, que j'ai identifiée là, dans les recherches, en fait, qui se font au Québec. Je m'intéresse vraiment en particulier à l'histoire des femmes puis des personnes minorisées par le genre en histoire de la musique au Québec. Et puis, alors qu'il y a quand même un corpus là, de littérature aux États-Unis, en France aussi, qui porte justement sur les violences à caractère sexuel, sur le lien entre les violences à caractère sexuel et la musique, parfois dans les musiques populaires. Au Québec, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, mais il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche justement à ce sujet-là. Je travaille en ce moment avec je la qualifierais de chercheuse émergente, Lisandre Champagne, qui fait des travaux de recherche justement sur les expériences de violence à caractère sexuel des musiciennes dans la scène à Montréal. Et puis, moi, en tant que musicologue, en fait, j'avais envie de me pencher sur dans la musique elle-même, en fait, de par mon intérêt envers les changements esthétiques, au niveau politique, au niveau des paroles, au niveau de comment c'est rendu, au niveau de l'instrumentation, de l'orchestration. J'avais envie de savoir, est-ce que 2017, c'est un point tournant en histoire de la musique au Québec où il y a une manière différente d'aborder les violences genrées dans les chansons elles-mêmes. Mon projet de recherche, en fait, répond à cette question-là.
Mm-hmm. Puis justement, on parlait là, de 2017. On sait qu'il y a définitivement un avant et un après mouvement MeToo, donc dans la sphère musicale. Puis on se demande en fait quelles ont été les observations que vous avez pu faire dans cette étude-là par rapport à cet avant-après-là qui a été en fait ce qui a piqué votre curiosité pour débuter la recherche.
Le projet de recherche est encore en cours. On est encore en recension parce qu'on a ouvert un petit peu le corpus. Peut-être pour rappeler l'historique du projet, on s'est intéressé d'abord et avant tout aux chansons qui témoignent de violences à caractère sexuel, de violences genrées. Mais récemment, on a décidé d'ouvrir le corpus justement pour faire place à des chansons qui permettent de comprendre le rôle des alliés, par exemple, dans ce contexte-là, ce qui ouvre la porte à davantage de chansons, puis davantage aussi de personnes qui s'identifient à une plus grande pluralité de genre. Donc, comme je disais, le projet est encore en cours. Ce que j'ai remarqué, en fait, à partir de la recension qui en est faite en date d'aujourd'hui, c'est à quel point, justement, on pourrait qualifier les chansons d'avant 2017 en général comme des chansons relativement intimiste. Donc, lorsqu'on parle de violence à caractère sexuel, de violence conjugale, de violence genrée, justement, dans la musique, c'est souvent des chansons qui sont chantées majoritairement par une femme, mais avec des instruments acoustiques en arrière. Donc, on va avoir soit du piano, de la guitare acoustique, c'est des ballades au niveau du genre musical, ça va être des ballades, des chansons douces. Et donc, toute cette espèce de contexte-là, au niveau des paroles, là, je pourrais rajouter, on utilise beaucoup de métaphores, justement, pour peut-être adoucir la violence des histoires qu'on raconte. Donc, c'est vraiment juste en écoutant avec attention ou en connaissant, dans le fond, les histoires spécifiques de chacune des chansons qu'on peut comprendre que ce qu'on nous raconte, en fait, c'est un témoignage individuel d'une personne qui a vécu de la violence. Et donc, à la fois au niveau du point de vue de l'artiste, ce qu'on met de l'avant, c'est ce que j'appelle une chanson témoignage. Donc, ça invite le public à s'identifier à cette chanson-là sur une base individuelle. Mm-hmm. Ça montre que les violences genrées, les violences à caractère sexuel existent, mais si on imagine cette chanson-là chantée là, dans un contexte de spectacle, les gens du public vont souvent vivre des émotions fortes, mais ça va rester une expérience privée ou en tout cas semi-privée au sens où on s'identifie à l'artiste qui chante cette chanson-là si on a vécu des violences de cette nature-là en particulier. mais ça s'arrête là.
OK.
C'est des chansons qui sont importantes là, pour donner quelques exemples. Je pense à Blessé de Linda Lemay qui a été composée en 2010, une chanson qu'on mm-hmm. connaît bien. Il y a Mon frère hein, de France hey. D'amour qui date oui. de 1994. La chanson de Marie-Mé, Encore une nuit, fait aussi partie de mon corpus mm-hmm. parce qu'elle parle de violence domestique envers les enfants. Donc, c'est toutes des chansons qu'on connaît pour les avoir fredonnées, pour les avoir entendues rouler à la radio beaucoup, mais elles invitent une forme d'identification pardon, qui est très individuelle, qui est très intimiste.
Mais
ce qui change après 2017, c'est vraiment le caractère collectif en fait de l'expérience qu'on présente. Les chansons justement qui datent, qui sont plus récentes, là, incluent la chanson Me Too justement de Laurence Nerbonne, des chansons de Cœur de Pirate aussi comme par mm-hmm. exemple Je veux rentrer de 2018. C'est des chansons qui montrent, qui permettent en tout cas au public de voir à quel point malheureusement aujourd'hui les violences, aujourd'hui et depuis longtemps, mm-hmm. les violences à caractère sexuel, c'est des expériences qui, malheureusement, unissent beaucoup de personnes. Donc, c'est pas juste ces chansons-là, comme par exemple la chanson de Laurence Nerbonne dont je parlais, Me Too. À la fin de la chanson, vraiment, elle chante « Moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Excusez-moi, je chante vraiment pas Laurence Nerbonne. Mais bref, une fois qu'on l'a entendu, une fois, on l'a dans la tête. Et puis, Laurence Nerbonne raconte justement que lorsqu'elle finit ses spectacles puis qu'elle voit les publics, justement, chanter cette chanson-là, danser sur cette chanson-là en même temps, ça nous permet de voir à quel point, malheureusement, il y a beaucoup de personnes parmi les publics, parmi les gens qui écoutent ces chansons-là, qui partagent des expériences de violence genrée. Puis ça, pour moi, c'est un point tournant qui est très important. On n'est plus dans la preuve qui doit être faite, qui doit être démontrée que ça existe. Mm-hmm. On prend conscience de manière collective, justement, que c'est un problème structurel auquel beaucoup de femmes et beaucoup de personnes minorisées par le genre font face dans leur quotidien.
Mais on sait aussi que dans des études comme ça, d'analyse de contenu comme vous faites, que la part de réception du public est vraiment importante. Donc, moi, je parle, par exemple, la chanson « Mon frère » de France d'amour que je trouve excellente, mais je vous dirais que j'ai pas compris les paroles vraiment avant, il y a quelques années. Est-ce que vous croyez que la première vague de chansons dont vous avez parlé versus la deuxième vague, les gens sont plus conscientisés déjà? Peut-être que les artistes également sur scène abordent ces sujets-là entre les chansons davantage qu'elles le faisaient dans la première vague. Est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau-là pour la réception du public, justement?
Ah oui, moi, je pense que oui, absolument. Je me rappelle très, très bien, là, quand j'étais jeune adolescente, j'enseignais dans une école de musique, puis dans les concerts de fin d'année, il y avait des jeunes filles là, de 6 ans, 7 ans, 11 ans, 12 ans, des fois, qui chantaient la chanson « Encore une nuit » de Marie-Mé, mm-hmm. parce que c'était un hit, mm-hmm. parce que, bon, il y a beaucoup de jeunes filles qui admiraient énormément Marie-Mé et ses chansons. Par contre, c'est une chanson qui parle de violence, et puis je me rappelle très bien les contextes où cette chanson-là était chantée. J'ai pas l'impression que les publics, même les profs qui assignaient ces chansons-là, non. réfléchissaient tant que ça à quel est le récit justement de cette chanson-là, puis qu'est-ce que ça signifie socialement de mettre ces mots-là dans les bouches d'une enfant, justement, qu'elle se les approprie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion très différente autour de ces enjeux-là. Je pense qu'en effet, c'est des chansons qui roulaient à la radio relativement décontextualisées dans mm-hmm. la plupart des cas, qu'on entendait dans les concerts décontextualisés. Puis je pense que, en tout cas, de mon point de vue, à moi, c'est une avancée qui est très positive, justement, qu'on puisse en parler ouvertement. Je pense que c'est France d'amour récemment qui a expliqué là, concrètement l'origine de cette chanson-là. Linda Lemay en parle ouvertement aussi. Donc, le fait qu'on puisse en parler ouvertement, ça aussi, ça contribue puis ça réinscrit ces chansons-là différemment, justement, dans la culture populaire.
Moi, j'aimerais vous entendre un peu là, sur le vocabulaire de ces chansons-là, en fait, les paroles et tout. Est-ce que vous avez constaté, parce que là, vous parliez de l'expérience individuelle par rapport à l'expérience collective. On s'est entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec Viviane Audet, puis elle a mentionné justement que, par exemple, le terme féminicide, c'est un terme on en entend de plus en plus parler, mais qui n'était pas si commun il y a même 3-4 années. Est-ce que vous avez remarqué justement une différence dans la façon dont on aborde justement ces violences-là? Est-ce qu'il y a des mots qui sont apparus avec le temps et puis on s'est écarté peu à peu de la métaphore pour aller plus mm-hmm. dans l'expérience plus concrète?
Absolument. Puis encore là, je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense que c'est une pression positive que je dirais que je reçois beaucoup dans le contexte de mon travail à l'université de mes étudiants et étudiantes, justement. Les populations étudiants et étudiantes auxquelles j'enseigne, c'est des gens qui sont extrêmement conscientisés, qui s'intéressent aux enjeux sociaux, puis surtout qui ont envie de chacune de changer leur petit morceau d'univers. Dans ce contexte-là, l'attention au langage, justement, prend une importance que je me rappelle pas avoir vu il y a 5 ans ou il y a 10 ans, pas dans le milieu universitaire, mais plus largement dans la société. Faire attention aux mots qu'on choisit pour parler des choses. Est-ce qu'on parle d'un meurtre? Est-ce qu'on parle de violence envers les femmes? Est-ce qu'on parle de violence envers les personnes féministes? De s'assurer de choisir les bons mots, c'est extrêmement important parce que ça permet de refléter justement les enjeux sous-jacents qui peuvent être obscurcis lorsqu'on parle de, bon, on est le 6 décembre aujourd'hui, si on parle de meurtre à la Polytechnique, on en fait un enjeu justement criminalisant. Mais lorsqu'on parle de violence envers les femmes, on est capable de parler après ça de problèmes structurels, puis justement d'enjeux qui touchent à plusieurs niveaux. Donc là, on a un niveau extrême, malheureusement, puis c'est ce qu'on cherche à justement se remémorer dans des journées comme aujourd'hui. Mais il y a plusieurs nuances, justement, de violence auxquelles les femmes puis les personnes minorisées par le genre font face dans leur quotidien. Puis des journées comme aujourd'hui, évidemment, faut prendre le temps de réfléchir, de repenser à ces niveaux-là extrêmes de violence qui sont dirigées envers les femmes, mais aussi de mettre en contexte cette échelle-là de violence, puis de contextualiser nos expériences individuelles au sein de ces échelles-là de violence, de les comprendre comme un exemple parmi plein d'autres exemples de violence envers les femmes puis les personnes issues de la pluralité de genre.
Absolument. Puis, si on revient au corpus, je retourne un peu en arrière. La plupart des artistes recensés sont des femmes, des personnes non binaires. Bon, évidemment, là, on parle de violence, tout ça, à caractère sexuel, tout ça. Mais est-ce que, parce que c'était aussi pour de la musique faite par des femmes ou sur les femmes, qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, qu'on n'ait pas recensé des artistes, par exemple, masculins qui se seraient exprimés sur ces violences-là?
Ben c'est une très bonne question. Puis je vais vous répondre en deux temps, si vous le permettez. D'emblée, au début de mon projet de recherche, j'étais vraiment à la recherche de justement comprendre comment le témoignage change, notamment en ce qui concerne le processus créatif chez les artistes, mais aussi au niveau de la réception. C'est quoi le rapport avec le public? Comment est-ce que les artistes se nourrissent justement à même les débats sociétaux? Puis à leur tour, nourrissent elles eux-mêmes les débats sociétaux à travers leurs chansons. Dans ce contexte-là, c'est prioritairement des femmes puis des artistes non-binaires que j'ai recensés en début de travail. Par contre, même dans le cas où on ouvre la porte, justement, puis qu'on a envie de s'intéresser aux chansons des alliés, je pense qu'il reste beaucoup de tabous autour de la masculinité dont il faudrait davantage parler. Je mène un projet de recherche en ce moment qui s'appelle DIG, ou différences et inégalités de genre dans la musique au Québec, qui cherche à parler justement des différentes modalités de participation, de légitimation, de reconnaissance en musique au Québec, tant du point de vue historique que du point de vue actuel. Puis ce que je réalise, c'est que si ce projet-là a justement offert une plateforme pour mettre en valeur les travaux qui étaient en cours de réalisation sur les femmes en histoire de la musique au Québec, les personnes issues de la pluralité de genre, en particulier les artistes non binaires, ce que je réalise, c'est qu'il y a encore très peu de gens qui se questionnent sur le rôle de la masculinité dans la musique et des violences genrées ou des violences à caractère sexuel. Puis ici, je parle pas, alors je pourrais en parler, mais parce qu'il y a des hommes, évidemment, qui vivent des violences de diverses natures. Ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience de la manière à travers laquelle certains modèles de masculinité mènent à des comportements violents envers le genre, les femmes puis les personnes minorisées par le genre, ça, je pense que c'est une prise de conscience tant au niveau social qu'au niveau de la recherche qui n'a pas entièrement éclos. Donc, pour moi, c'est une avenue de recherche qui reste extrêmement intéressante. Puis, encore une fois, il y a beaucoup de place en recherche au Québec pour explorer ces thématiques-là. Il y a de plus en plus de chercheurs et chercheuses qui s'y intéressent, justement, mais ce thème-là, le rôle des modèles de la masculinité, du rapport, justement, entre le vedettariat puis le type de personne qu'on doit présenter, qu'on doit mettre de l'avant justement pour s'inscrire dans le show business. Dans le show business au Québec, ça a un lien avec justement comment les gens nous écoutent, puis avec comment on comprend les rapports de genre dans notre société aujourd'hui.
Oui, puis on voit d'ailleurs, par exemple, l'artiste Hubert Lenoir qui il joue beaucoup avec le genre, tout ça. Mais Safia Nolin aussi, qui a une identité de genre, mais les deux sont pas traités de la même manière dans le public. Safia Nolin, se fait harceler, puis tandis qu'Hubert Lenoir, lui, c'est un génie. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi, mais on pourra en parler longtemps.
Ouais. Malheureusement, on n'a pas le temps tant que ça d'en parler, mais je vous remercie beaucoup, Vanessa Blais-Tremblay, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. On a bien hâte de voir justement la conclusion là, de cette recherche-là. Pardon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben merci. Je vous invite, en terminant, peut-être à aller écouter le plus récent album, justement, de Safia Nolin, qui est à la fois très intéressant au niveau des contenus, mais aussi parce que on a connu Safia Nolin justement dans ses chansons d'une beauté limpide où on peut malheureusement sentir la souffrance qu'elle vit. Mais dans son plus récent album, elle fait place à une autre voix, une voix où elle se fâche littéralement, où elle est en colère. Et puis c'est extrêmement rafraîchissant là, justement de la voir se positionner de cette manière-là. Donc je vous invite à écouter ça. Puis je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à participer à votre émission aujourd'hui.
Ça a été un plaisir.
Mais oui, ça a été un plaisir. Merci beaucoup.